Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner. Et merci à vous d'être là une nouvelle fois pour m'accompagner durant cette troisième saison. En me rendant chez Lucie Bache ce matin d'automne, le rythme du métro parisien et des paysages calmes qui défilent me rappelle la vitesse assourdissante avec laquelle notre monde change. Grâce à une simple appli créée pour aider les commerçants de son quartier à écouler leurs stocks alimentaires plutôt que de les jeter, cette jeune entrepreneure a permis de sauver 10 millions de repas depuis son lancement. Et c'est autant d'utilisateurs qui passent désormais par Too Good To Go pour acheter des produits frais ou des repas dont la date de péremption approche. À moins de 30 ans, cette société est sa première incursion dans l'entrepreneuriat. Et au vu de sa croissance, ce pourrait bien être l'aventure de sa vie. Je suis Guillaume Brégeras, journaliste aux Échos. Vous écoutez Take Off et je vous souhaite de passer un excellent moment avec Lucie, fondatrice et PDG de Too Good To Go. La première question que je pose à chacun de mes invités, c'est ta routine. Est-ce que tu as une routine matinale déjà ?
Ouais, elle est très courte, très efficace. Avec moi, c'est toujours comme ça. En gros, je me lève vers, entre 7h et 7h30. Je prends ma douche et je pars au bureau.
Pas de petit déjeuner.
Non, je fais tout mal. Non, souvent, ce que je fais, c'est du sport avant. Mm-hmm. Donc, je me lève, je fais entre 15 et 30 minutes de sport intensif. Comme ça, je prends une douche froide et je pars au bureau.
Quel type de sport ?
En vélo. C'est vraiment des exercices pour juste faire monter l'énergie en moi, quoi.
D'accord.
L'idée de se remuer le plus possible. Et ensuite, parce que j'ai un problème de douche parce que j'ai pas de pression. Et quand elle est froide, il y a plus de pression. Donc, c'est une astuce. Et non, sinon, en fait, je trouve ça cool de se réveiller autrement que par prendre du café et d'être mort pendant les deux premières heures de ta journée. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment l'idée de juste... dès que je me réveille, en fait, je suis à fond.
D'accord. Et tu me disais, tu vas au travail à vélo.
Ouais.
C'est un choix, c'est que...
C'est un choix, c'est un bonheur, c'est un plaisir tous les matins. Juste le métro, je suis assez allergique, en fait. Je trouve que c'est très compliqué de se coller à tout le monde le matin, surtout quand il fait chaud. Et faire du vélo, c'est trop cool. En plus, j'habite vers Montmartre. Du coup, ça monte quand je rentre du boulot. Donc, ça me fait aussi du sport. Moi, je me déplace partout à vélo dans Paris, en fait. Tu vas juste beaucoup plus vite. Mmh. Ça pollue pas. Ça te fait faire de l'exercice. C'est gratuit. Mmh.
Et c'est praticable aujourd'hui, le vélo à Paris ?
Et bien, franchement, de plus en plus. Mmh. Alors, il paraît que la maire de Paris a décidé de faire de Paris la première capitale du vélo. Et franchement, tu vois la différence. Il y a des voies vélos qui naissent de partout. Tu peux prendre toutes les rues à contresens. Donc, c'est pour ça que ça va vachement plus vite que le métro, que la voiture. Parce que tu fais ton chemin, quoi.
Super.
Très cool.
La trajectoire que tu as aujourd'hui, est-ce que tu pouvais l'imaginer quand tu étais encore en école d'ingé est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête déjà et est-ce que c'est conforme à tes attentes ?
Non, clairement pas. Je pense que je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, moi, j'ai fait école d'ingé parce que au lycée, j'étais bonne en maths et en physique et je savais pas ce que je voulais faire. Donc, on m'a dit fais prépa. J'ai fait prépa. J'ai fait mon école. Et ensuite, mon école proposait des doubles diplômes. Je suis partie faire un double diplôme en Angleterre pour parler mieux anglais. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai été recrutée par un géant de l'agroalimentaire. J'étais intéressée par l'alimentation et donc j'y suis allée aussi à fond. Et en fait, c'est qu'à 22 ans, après avoir passé un peu plus d'un an et demi chez Nestlé, que j'ai commencé à me poser la question, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Mmh. Et en fait, si tu veux, j'avais vraiment suivi les rails sur lesquels la société te met en disant voilà ce qu'il faut que tu fasses dans la vie pour être quelqu'un de bien, entre guillemets. Et j'ai fait tout ça, j'ai coché toutes les cases sur mon CV. Et en fait, je me suis jamais posé la question de mais en fait, comment est-ce que moi, j'ai envie de contribuer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et j'ai toujours fait plein de choses, plein de projets, plein de trucs que j'avais envie de faire. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans la vie active, là, tu te retrouves... on a la chance, moi, mes amis, de se retrouver avec des possibilités infinies. Mmh. Et là, tu te retrouves confronté au choix de qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie, quoi. C'est plus les années scolaires qui s'enfilent les unes après les autres.
T'avais jamais eu vraiment l'opportunité de te poser la question?
Non, clairement pas. Mmh. Et je trouve qu'on te la pose pas du tout dans l'éducation, en fait. On te demande pas comment est-ce que toi, t'as envie de contribuer, ou quelle est ta valeur ajoutée, ou est-ce que t'es bon, ou est-ce que t'es moins bon. Mmh. Et ça, en fait, cette question, du coup... Bah, il m'a fallu 22 ans pour commencer à me la poser, quoi.
Et qu'est-ce qui te faisait rêver à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, donc je travaillais dans les usines de production de Nestlé. J'étais responsable d'amélioration continue. Et donc, j'étais sur la chaîne de production avec les ouvriers dans les usines à produire du café, de l'eau, de la nourriture pour animaux. Tous ces produits géniaux pour la planète et pour la santé. Et je me suis dit... et j'habitais sur le parking de mon usine.
Comment ça, t'habitais sur le parking de celui-ci?
Bah, en fait, j'étais dans ces programmes, tu sais, accélérés pour les futurs talents de l'entreprise, okay. Où t'es en graduate programme. Et du coup, ils te logent et tu bouges tous les 6 mois de mission et d'accord. D'usine. Et du coup, j'étais logée sur le parking de mon usine. Donc, c'était très pratique pour aller au boulot le matin. par contre, au bout d'un moment, j'étais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? C'était hyper inspirant parce que moi, je suis née à Paris, j'ai grandi ici. Papa médecin, maman avocat dans le 4e arrondissement. Donc, j'avais aussi clairement besoin de me dépayser et de découvrir le monde réel. Mmh. Donc c'était top d'aller habiter dans les petits villages en Angleterre avec des potes ouvriers d'usine qui avaient passé toute leur vie là-dedans. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 ans, je me suis dit, j'ai vu comment est-ce que je change ça en fait. Parce que c'est pas un truc.
Parce que ton job, c'était d'améliorer la production, la productivité, baisser les coûts, j'imagine. Ouais. Et donc au début, t'as pas de problème avec ça. C'est vraiment au fur et à mesure de faire que tu t'en rends compte.
Ouais, c'est au fur et à mesure que les projets s'enfilent où effectivement je réduis les coûts, j'augmente la productivité, mais souvent je crée plus de pertes. Parce qu'en fait, tant que la ligne tourne plus vite et le coût marginal diminue, voilà ce qui compte. Mmh. Donc du coup, tu te retrouves à toi créer du gaspillage. Et surtout, je me rends compte que les seules mesures de succès qu'on suit, c'est des mesures effectivement de coûts. Et chez le plus gros producteur d'alimentation aujourd'hui, tu te retrouves à pas du tout prendre en compte des facteurs de santé ou d'environnement, en fait. Mmh. Et moi, ça me paraît complètement absurde. Et quand je commence à me plonger dans tous ces sujets et que je me rends compte qu'on jette un tiers de ce qu'on produit aujourd'hui sur la planète, et en fait, c'est le genre de truc où c'est un peu le cercle vicieux. Plus tu commences à creuser, plus tu passes des heures sur Internet à cliquer sur tous les liens auxquels les articles te rapportent, etc., plus tu deviens fou, en fait. Et tu te dis, je peux pas cautionner ça. Faut que je fasse quelque chose. Et si même moi, aujourd'hui, à 22 ans, alors que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de prêt à rembourser, j'ai tous les diplômes nécessaires, j'arrive pas à faire le pas de me dire, je quitte mon CDI et j'essaie de créer un truc qui a du sens, qui va le faire, en fait?
Et tu te poses pas la question de changer en interne, de faire changer les choses en interne?
Bah si, en fait, c'est pour ça à la base que j'ai rejoint Nestlé. Je me suis dit, si j'arrive à faire bouger un mastodonte comme ça de 1%, tu peux avoir un impact énorme. Et je me dis, changer les choses de l'intérieur, c'est incroyable. Et en fait, très rapidement, je me retrouve confrontée à une boîte de 300 000 personnes qui fait que tu rentres par la petite porte et tu vas attendre... franchement, si t'es très très bon, au bout de 10 ans, t'as peut-être une position qui te permet de commencer à faire changer les choses. Et au bout de 10 ans, de toute façon, t'as plus envie de faire changer. Parce qu'il y a quand même vachement la notion de « oui, mais on fait aussi vachement de choses bien ». Et du coup, bah, tu te retrouves à y croire. Mmh. Et du coup, t'as de moins en moins envie de changer les choses, de moins en moins d'énergie. Et franchement, moi, c'est mon manager chez Nestlé qui m'a dit « reste pas là, quoi ». Et quand c'est vrai que c'est cette discussion qui a un peu fait tilt, ouais. Où il m'a dit « moi, j'ai attendu. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Aujourd'hui, j'ai plus l'énergie. Et je sais que je vais rester là toute ma vie, quoi. Et honnêtement, je te souhaite pas ça ». Et c'était trop cool, en fait, de l'entendre de mon manager. Je ne le citerai pas parce que c'était clairement pas ce qu'il était censé me dire.
Bien sûr.
Mais le fait qu'il me l'ait dit et qu'il m'ait dit « t'as une telle énergie, va la mettre ailleurs », ça a fait tilt dans ma tête et du coup, ça m'a permis de faire le pas assez rapidement.
Et donc là, de Nestlé, tu pars tout de suite dans les Nordiques?
Exactement. Ouais, donc je démissionne de mon boulot. Oh. Donc j'avais quand même déjà en tête de faire une application qui connecterait commerçants-consommateurs. Mmh. En gros, j'avais lu pas mal de choses dans mes lectures chez Nestlé. Comme je te dis, j'habitais sur le parking de mon usine, j'avais pas trop de vie sociale, donc j'avais beaucoup de temps. Et j'avais lu notamment pas mal d'articles d'environnementalistes, d'activistes qui disaient la seule chose qui peut sauver la planète aujourd'hui, c'est un mouvement de masse. Mmh. C'est le fait que chacun je commence à changer ces habitudes du quotidien. Et en fait, toutes ces petites, tous ces petits changements qui font que demain, on peut avoir un impact d'ampleur si on fait tous nos petits, nos actions à notre échelle. Et c'est là que je me suis dit que le numérique et le digital et le fait qu'aujourd'hui, on ait quasiment tous un smartphone dans la poche, ça permet vraiment de connecter les gens au bon moment, au bon endroit. Mmh. Et typiquement, le problème des invendus des commerçants, c'est vraiment un truc complètement absurde parce qu'en fait, le boulanger, tous les soirs, il va jeter ses croissants, ses sandwichs, ses baguettes, etc. Alors qu'il y a des gens qui seraient ravis de les récupérer. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour les récupérer. Et il suffit juste qu'au moment où il ferme et où il s'apprête à tout jeter, il y a une personne qui arrive et qui récupère ses produits. Et du coup, ça avait commencé un peu à germer dans ma tête. Je me suis dit, je suis ingénieur, je vais coder l'appli moi-même. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, même si ça m'a vachement intéressé. J'ai pris le site du zéro. Okay. J'ai appris à coder en CSS, HTML, machin. Et je me suis rendu compte que ça serait pas forcément moi qui coderais l'appli jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire mûrir l'idée dans ma tête au fur et à mesure, en fait. Et donc, quand j'ai démissionné, j'avais vraiment cette idée en tête. J'avais aussi l'idée de enfin prendre du temps pour moi et de me dire, j'arrête de vouloir tout enchaîner le plus vite possible et je me pose les vraies questions qui sont importantes pour moi. Et donc, quand je suis partie effectivement m'installer en Scandinavie, je me suis juste dit, je m'ouvre l'esprit le plus possible. Je m'étais interdit de postuler à un quelconque job pendant les 6 prochains mois.
D'accord.
Et de vraiment être assez stricte avec moi-même, rencontrer un maximum de gens, mais pas me remettre dans un truc à plein temps avant.
Tout de suite. Et comment réagit ton entourage, tes parents?
Ils étaient un peu oh là là, qu'est-ce qu'il a fait encore. Je pense que ma mère m'a quand même demandé, quand je lui ai dit que j'avais déposé ma lettre de démission, elle m'a quand même demandé, mais t'es sûr que tu peux pas la reprendre et tout, c'est un peu précipité. Moi, je suis assez je suis très 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 impulsive. J'ai refait un test de personnalité récemment où on note plein d'attributs entre 0 et 10 et j'ai 10 en impulsivité. Donc si tu veux, quand j'ai un truc en tête, en général ça passe à l'action 2 minutes plus tard, et c'est vrai que sur ma démission, j'étais assez déterminée, quoi. Donc ils n'ont pas hyper bien réagi, mais en même temps, encore une fois, j'avais tellement zéro risque, si tu veux. Je me suis vraiment dit, si dans 6 mois, je me rends compte que c'était une bêtise, que en fait, c'est top de bosser pour une grosse boîte, etc., j'ai le CV qui fait que je retrouverai hyper rapidement. Et donc, j'étais vraiment en fait, dans une zone de... Enfin, j'étais assez à l'aise sur le fait que je ne prenais pas trop gros risques, en fait.
D'accord.
Et du coup, je me suis dit, par contre, si je ne le fais pas aujourd'hui, je prends le risque de jamais le faire. Mmh. Et là, ce serait peut-être une bêtise.
Et tu as des gens qui t'inspirent à ce moment-là, un peu, quand même?
Alors, pour être tout à fait honnête, il y a un des trucs qui fait assez le titre dans ma tête aussi, c'est un discours de Steve Jobs aux étudiants de Stanford, qui dit, qui parle de lui, en fait, et qui dit que la chance qu'il a eue dans sa vie, c'est que très très tôt, il savait parfaitement ce qu'il voulait faire. Et que du coup, il ne s'est pas posé de questions, qu'il a mis toute son énergie, toute sa passion, tout son temps à faire ce qu'il avait envie de faire. Donc, il a quitté l'école, etc. Enfin, il est allé assez dans l'extrême. Et il leur dit, si j'ai un conseil à vous donner dans la vie, c'est que tant que vous n'avez pas trouvé votre passion, don't settle. Et acceptez jamais de vous mettre dans une vie où vous n'êtes pas capable de dire de quoi vous êtes passionné. Par contre, le jour où vous trouvez votre passion, là, vous ne posez plus de questions non plus. Allez-y à fond et c'est là que vous serez successful, c'est là que vous serez heureux. Vous y gagnerez tout, quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, j'ai 22 ans, j'ai aucune idée de ce qui me passionne et ça, c'est pas normal. Donc ça un peu fait tilt. Et ensuite, en arrivant en Scandinavie, j'ai rencontré plein de gens géniaux. Et notamment, je me suis pas mal impliquée dans le réseau qui s'appelle WeShare, d'économie collaborative. Ils avaient une antenne à Oslo avec une Française qui gérait ça d'une main de maître, Myriam Bourré, que tu connais peut-être, qui est une nana incroyable, qui m'a énormément inspirée sur tous les sujets de l'alimentation aussi.
Juste pourquoi la Norvège, à ce moment-là?
Parce que mon copain est norvégien.
D'accord.
Et je me suis dit, quitte à quitter l'Angleterre, j'ai pas forcément envie de retourner en France. La Scandinavie, c'est quand même hyper inspirant dans les sujets qui m'intéressent, qui sont l'environnement, potentiellement l'alimentation, etc. Ils sont assez proches de la nature. Et donc, je me suis dit, si c'est la France ou la Norvège, autant commencer par la Norvège.
Okay.
Donc voilà. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire plein d'articles et à écrire des emails aux gens en disant « Hello, est-ce qu'on peut prendre un café ?» Et en fait, c'était vraiment l'idée de rencontrer un maximum de gens. Et c'est vrai que je me rappelle très bien notre première rencontre avec Myriam Bourré, justement, qui m'a, elle, mis en contact avec encore 15 000 autres personnes. Et j'avais enfin le temps, en fait, de rencontrer ces personnes, de creuser ce qu'elles me disaient, etc. Et donc, et en fait, tous ces gens-là, je leur disais « Est-ce que je peux aider ?» J'ai du temps, vous n'avez pas besoin de me rémunérer. Allez-y. Et là, forcément, tu te retrouves impliqué dans 15 projets parce qu'une ressource gratuite qui est prête à se mettre dispo dès demain, ça court pas les rues. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à organiser des conférences sur la blockchain, à me retrouver impliquée dans Open Food Network et à avoir des dizaines de kilos de pommes de terre, de carottes locales qui étaient livrées chez moi, et du coup à rencontrer mes voisins de quartier qui venaient récupérer leurs fruits et légumes chez moi. Du coup, je me suis retrouvée dans tout un tas d'aventures géniales. Et quand j'avais la question fatidique de « Et toi, du coup, tu fais quoi dans la vie ?» Là, c'était toujours très compliqué. Enfin, c'est horrible de répondre à cette question quand t'es pas dans une box, en fait. Et du coup, ce que je disais, c'est moi, je veux lancer une plateforme qui connecte commerçants et consommateurs pour permettre à tout le monde de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et en ce moment, je cherche des développeurs. Donc, c'était aussi un peu mon point d'accroche. Et du coup, ça me permettait encore une fois, quand les gens me demandaient plus de détails sur l'idée, de la faire évoluer dans ma tête, etc. Et au fur et à mesure, en fait, assez rapidement, j'ai trouvé des gens qui étaient en train de faire exactement pareil que moi et qui cherchaient aussi des gens pour faire le projet ensemble. Exactement. Et du coup, très rapidement, on a commencé à bosser ensemble. Et c'est là que Too Good To Go est né hyper vite, en fait, d'abord en Scandinavie.
D'accord. Et comment est-ce que tu te poses la question de savoir si c'est un projet... pas philanthropique, mais en tout cas plutôt tourné vers la philanthropie ou l'économie du partage, en tout cas sans avoir de volonté de forcément gagner beaucoup d'argent, ou est-ce que tu comprends tout de suite que tu peux en faire une vraie entreprise ?
Alors, pas du tout, je prends conscience que je peux en faire une vraie entreprise, je pense. Je suis vraiment, tu vois, dans cette optique de je fais des trucs qui me semblent, enfin que j'ai envie de faire et qui me semblent avoir du sens. Et j'ai la chance de pas avoir besoin de modèle économique tout de suite, donc profitons-en, quoi. Donc quand je me lance dans Too Good To Go et qu'on commence à tout donner dans cette aventure, on réfléchit même pas forcément directement à un modèle économique. Par contre, ce qu'on comprend assez rapidement, c'est qu'aujourd'hui la raison pour laquelle il y a toutes ces problématiques de javelisation, de commerçants qui jettent leurs produits, etc., c'est parce que le don est très contraignant. Et quand on donne des produits, on garde la responsabilité de ces produits. Et du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui, s'il tombe malade, peut se retourner contre nous. Et du coup, en fait, c'est l'achat, quel que soit le prix, qui fait qu'il y a un transfert de responsabilité et qui protège le commerçant. Et c'est là, en fait, qu'on se dit, ces invendus, on va les faire récupérer à un prix très réduit, ce qui protégera le commerçant et impliquera les gens aussi, parce qu'à partir du moment où tu as payé même une toute petite somme, tu te déplaces et tu le fais, en fait. Tu prends tu vas jusqu'au bout. Et du coup, c'est à partir de là qu'on crée vraiment le concept de Too Good To Go. Et quand on commence à réfléchir à un modèle économique, là, pour le coup, il est tout trouvé. Sur des produits qui partaient à la poubelle, et donc le commerçant récupérait 0 euro, il récupère une petite somme. L'utilisateur, il paye beaucoup moins cher que ce qu'il aurait payé habituellement. Et nous, du coup, on prend une commission sur cette somme payée sur l'application. Ce qui te fait que tu as vraiment un modèle qui est gagnant-gagnant-gagnant pour les trois parties et qui peut vraiment avoir un impact d'ampleur sur le gaspillage alimentaire et donc sur l'environnement. Et du coup... Et c'est vrai que souvent, on me pose la question de « Mais du coup, comment vous avez fait pour définir le concept ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'itérations ?» Et quand je vois des entrepreneurs qui, au bout de 2 ans, sont encore en train de trouver le concept, je me dis « Waouh, on a quand même eu vachement de chance de... » En fait, le truc, c'est défini hyper naturellement, en fait.
Et ton premier commerçant, tu te souviens ?
Ah ouais, c'était compliqué. Donc mes premiers commerçants, en vrai, c'était en Norvège.
D'accord.
Après, je suis vite revenue en France aussi, notamment au moment de la loi Garot en février 2016. Où je me suis dit, on va parler du gaspillage alimentaire en 2016, il faut qu'on parle de tout.
Il y a un momentum, ouais.
Donc, que ce soit en Norvège ou en France, c'était vraiment... je pense que les premiers commerçants, ils ont plus signé parce que je leur faisais pas de la peine, mais tu vois, ils se disaient, bon, la pauvre fille, elle essaie de tout donner pour son projet, on va lui faire plaisir, ça nous coûte rien, on va y aller, quoi. Mais en fait, clairement, ils y croyaient pas trop. Moi, il y en a qui m'ont dit... Franchement, ça fait 20 ans que je jette. Il n'y a pas de solution, je le sais. J'ai essayé d'appeler toutes les associations de Paris, de France. Elles viennent pas. Clairement, c'est pas vous, du haut de vos petites, de vos 22 ans, qui allez révolutionner la planète, quoi. Et du coup, c'est vrai que je leur ai dit, mais en vrai, ça vous coûte rien. Essayez, vous verrez bien, etc. Sans même moi y croire complètement, parce que je l'avais pas. Ça fonctionnait pas à l'époque. On avait des problèmes de partout. On a vraiment fait les choses à l'arrache, je dirais. C'est un peu notre stratégie du début. C'est même dans notre définition, notre histoire, c'est vraiment go et après think, quoi. Donc, si tu veux, il y a vraiment le truc de on a un MVP, on y va. Merde, les gens, ils peuvent pas encore payer sur l'appli. Il y a plus de bugs que d'expériences qui se passent bien. C'est pas grave, on continue. Et du coup, c'est vraiment au fur et à mesure et avec nos commerçants, avec nos utilisateurs, que l'appli, elle s'est créée et qu'elle s'est transformée au fur et à mesure, quoi.
Et tu commences par des commerçants de quartier autour de chez toi,
ouais. Donc c'est des gens que tout le 4e arrondissement et le 11e à vélo, et je frappais à la porte de tout le monde, quoi. même des restaurants qui n'ont aucun sens à être chez Too Good To Go aujourd'hui parce que ils font tout à la commande et donc ils n'ont pas forcément d'invendus. Enfin, je savais rien en fait. J'allais dans les bistrots, dans les brasseries. Et alors qu'aujourd'hui, c'est des endroits où on ne va plus parce qu'on sait que ce n'est pas eux qu'on peut aider, c'est plus ceux qui préparent
les
en amont.
Ouais.
Et donc, du coup, oui, je suis allée frapper à la porte de tout le monde. J'étais quand même en parallèle à Paris et à Lille parce que pour moi, c'était très important de montrer dès le début que ce ne serait pas une appli parisienne bobo pour les gens du 4e et du 11e. Je pense que mon expérience au fin fond de l'Angleterre m'avait vraiment fait comprendre les gens qui ont un peu cette haine des gens qui habitent la capitale et qui ne pensent qu'aux gens qui habitent dans la capitale. Et du coup, j'avais vraiment envie de montrer que l'idée, c'était que ça se développe sur tout le territoire et qu'on aille toucher tout le monde. Et donc, j'ai pris Lille parce que je connaissais bien cette ville et que c'était à une heure de Paris. Et donc, je faisais des allers-retours. Et quand on a lancé en parallèle à Paris et à Lille.
D'accord. Et comment tu fais pour aller chercher tes premiers utilisateurs?
Ils viennent assez tout seul.
Magie.
Ma première utilisatrice, ma vraie, c'est ma mère qui a acheté tous les premiers paniers qui pouvaient être sur l'appli, qui a démarché les premiers commerçants. Enfin, c'est vraiment la première fan de l'appli. Mais à part ça, derrière, c'est en fait le jour où on lance, c'est une catastrophe parce qu'on a même pas 50 stores sur Paris et Lille réunis. Donc, c'est vraiment le tout début. Et je ne sais pas pour quelle raison, j'ai jamais compris pourquoi, mais on passe sur RTL à 5h du matin. Too Good To Go, une appli qui permet à tout le monde de réduire le gaspillage, se lance dans toute la France, télécharger l'appli et semer des repas. Donc là, si tu veux, on prend un pic de téléchargement, même à 5h du matin, ça montre à quel point la radio, c'est puissant. Enfin, un pic, je ne sais même plus si c'était 20 000, 2 000 ou 200 000, enfin, ce n'était pas 200 000, c'est sûr. Mais en tout cas, un truc beaucoup trop gros pour ce qu'on peut supporter. Et en plus, on dit dans toute la France, ce qui est complètement faux à l'époque. Et du coup, on se retrouve avec une étoile sur l'App Store, rien à côté de chez moi, c'est nul. Et si tu veux, la chute des notes de l'application, c'est incroyable à quel point ça va vite, quoi.
Et comment tu gères ça, du coup?
Mais je gère pas du tout, en fait. Je sais pas quoi faire. Je demande à tous mes copains de mettre des 5 sur l'application pour essayer de remonter la note, mais ça remonte très doucement. Donc, on est à 3,5 pendant longtemps, dans les débuts de l'application. Donc après, c'est vraiment... Je pense que Too Good To Go, c'est vraiment... formé et développé sur, pour le coup, des ambassadeurs qui ont cru à fond. La raison pour laquelle je peux aller si vite dans les différentes villes, c'est parce que j'ai des étudiants qui me disent « mais c'est génial, il faut absolument qu'on le mette à Bordeaux, à Nantes, machin », et qui tout simplement commencent à démarcher des commerçants.
D'accord.
Complètement bénévolement, avec les pauvres flyers que je leur envoie, et qui passent leur samedi après-midi, après les cours, aller démarcher leurs commerçants de leur ville. Et moi, je viens 2 jours à Bordeaux, et je les rencontre, et... on passe 2 jours à fond et on lance la ville, en fait. Et ça se fait vraiment comme ça au fur et à mesure. Ce qui fait que dès la première année, on a une dizaine de villes lancées sur l'application qui vivotent avec les bénévoles qui aident au développement de
l'application. Alors, t'es installé dans combien de villes en France aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a arrêté de les compter parce qu'on est vraiment installé dans toutes les grandes villes et beaucoup de petites et beaucoup de campagnes. En fait, aujourd'hui, on a 750 commerçants par mois qui nous contactent d'eux-mêmes.
D'accord.
Donc, si tu veux, ça nous permet vraiment de mailler tout le territoire. C'est vraiment le bouche à oreille et les médias qui font que aujourd'hui, j'ai vraiment eu ce moment où tu as l'impression de pousser la boule en haut de la montagne en donnant toute ton énergie. Et d'un coup, en fait, tu arrives en haut de la montagne et la boule, elle commence à tourner toute seule. Et c'est vrai que c'est à partir de 2018 où on a lancé en juin 2016. On a poussé à fond pendant un an et demi en se disant est-ce qu'on va un jour y arriver? Moi, j'avais peur d'embaucher des stagiaires de 6 mois. En me disant, c'est pas cool s'ils finissent pas leur stage et que dans 3 mois, on n'existe plus, etc. Et fin de mi-2017, c'est le premier CDI. Et après 2018, là, ça commence vraiment à se développer. On sauve 500 000 repas en 2017. On en sauve 3 millions en 2018. Là, on en a déjà sauvé 4,5 millions dans le début de 2019. Et du coup, oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les choses commencent à s'enchaîner les unes les autres. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions d'utilisateurs. On a 10 000 commerçants.
En France ou en France, d'accord. Et avec les autres pays, parce que tu es présente aussi...
Avec les autres pays, on en a 12 millions aujourd'hui.
D'accord.
Donc, et on est dans 13 pays en Europe.
13 pays en Europe.
Ouais.
Et alors, comment tu gères la croissance? Parce que c'est une chose d'avoir une idée, de la faire germer. C'est une autre de gérer maintenant la croissance. Donc, tu es chef d'entreprise, tu as une quarantaine de salariés, c'est ça?
70 maintenant.
70 salariés, bon, ouais, ça va encore plus vite que je l'imaginais. Comment tu gères ça au quotidien?
Ouais, bah, c'est ça qui est hyper intéressant dans l'aventure Too Good To Go, c'est qu'entre J'ai adoré mon job du début à aller convaincre les commerçants à pas me poser de questions, à dire, et je crois que c'était Oussama de Family qui disait ça justement, la différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise, c'est que quand t'es entrepreneur, ton boulot c'est de maximiser les opportunités. Juste teste 10 trucs, s'il y en a un qui marche, c'est génial quoi. Alors que quand t'es chef d'entreprise, de plus en plus ton boulot ça devient de minimiser le risque. C'est-à-dire que de plus en plus il faut prendre les bonnes décisions. Il faut non pas faire 10 000 trucs et qu'il y en ait un qui marche, mais il faut choisir les deux trucs que tu vas faire avec excellence, que tu vas faire super bien, où tu vas mettre du budget, tes ressources, etc. Et qui vont réussir derrière. Et là, c'est vrai que de plus en plus, chez Too Good To Go, on passe dans cette phase où on est moins... On fait tout à l'arrache, s'il y en a un qui fonctionne, c'est trop cool, en fait, on doit faire les choses bien. On a une réputation à tenir, entre guillemets. On a une crédibilité qu'on n'a pas envie de décevoir. On s'attaque à des sujets de plus en plus importants. On bosse de plus en plus avec le gouvernement, avec les politiques, avec les industriels, etc. Et du coup, on a des sujets sur lesquels on doit délivrer avec beaucoup plus d'ambition, en fait. Et donc, moi, mon boulot, il a complètement changé entre le moment où je devais juste dire aux bénévoles « Merci beaucoup de m'aider, c'est trop cool », etc. à gérer une politique salariale, gérer le droit du travail, gérer une stratégie, gérer un budget.
T'étais pas préparé à ça, forcément?
Ah non, clairement pas. Moi, après, j'ai fait une école d'ingé généraliste. À Centrale, on nous apprend quand même pas mal à faire de la gestion de projet, je dirais, plus que de la spécialisation d'ingénieur. Mais du coup, oui, à part ça, si tu veux, non, j'ai lu des livres. Et voilà, quoi.
Il y en a un qui t'a marqué? Il y a quelque chose qui...
Encore une fois, moi, je pense que je gère mon business, la boîte, avec le plus de sens possible. Et je dis toujours à mes employés, j'ai aucune envie de reproduire ce que font les grosses boîtes. J'ai envie qu'on crée notre boîte qui fait du sens et qui fait que, au début, effectivement, on se disait, en fait, si t'as déjà ton ordi perso, est-ce qu'on va vraiment t'acheter un ordi pro? Alors qu'en fait, que tout le monde ait deux ordi et deux téléphones dans le monde, ça fait pas du bien à la planète, c'est juste débile en fait. Donc comment tu réfléchis? Donc c'était vraiment l'idée, nous, une de nos valeurs. Aujourd'hui, on a quatre valeurs qui forment notre ADN, l'ADN d'un Waste Warrior chez Too Good To Go. Et l'une d'elles, c'est d'être créatif, et d'être créatif dans tout ce qu'on fait en fait, et notamment dans la boîte qu'on construit. Donc je me suis pas beaucoup inspirée de Frédéric Laloux et de l'entreprise Libérée, et de vraiment donner le plus possible de responsabilité et d'ownership à l'équipe. Et de me dire, si moi, je deviens le point bloquant, le bottleneck de la boîte, c'est que j'ai raté quelque chose, en fait. Et donc, il y a toujours cette idée de se dire, tout ce que je fais, est-ce que soit j'adore le faire, soit j'ai une énorme valeur ajoutée à le faire moi, soit j'ai vraiment personne d'autre qui puisse le faire. Mais sinon, en fait, je m'assure qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse, en fait. Et ça marche assez bien pour nous permettre, effectivement, ce truc d'hyper-croissance et le fait que, on se développe à toute allure. Il faut que chaque manager apprenne à empower son équipe. Et notre mission chez Too Good To Go, c'est inspire and empower everyone to take action against food waste. Mais ça marche aussi pour les employés, c'est les inspirer, les engager et leur donner la possibilité de passer à l'action d'eux-mêmes, en fait, sans demander à leur N+4 comme dans les grosses boîtes s'ils peuvent le faire, quoi.
Et il y a quand même, j'imagine, parmi tout ce que tu fais, des choses qui sont pas forcément plaisantes au quotidien. Qu'est-ce qui t'embête aujourd'hui au quotidien? Qu'est-ce que t'aimes pas faire?
Tous les trucs qui sont vraiment de la gestion de boîte, typiquement la compta, la partie légale. Je pense que ça, c'était une de mes erreurs au début, c'est que je me suis pas entourée assez vite des bonnes personnes. Si tu veux, j'ai pris... la start-up qui fait de la comptabilité pour tout compris pour 90 euros par mois, et j'étais trop contente de payer pas cher. Et en fait, c'est une connerie. Il faut trouver les personnes qui vont t'accompagner du début jusqu'au bout. Et ça, c'était. Et donc aujourd'hui, je me retrouve encore à faire des trucs, moi, de comptabilité où il faut que je renvoie les factures. Je suis pas du tout organisée, donc c'est pas du tout trié. Donc je perds vachement de temps là-dessus et c'est complètement débile. Le droit du travail, j'en parlais, mais. C'est un puits sans fond d'énergie et de temps pour comprendre comment ça fonctionne, comment il faut faire les choses, à quel point le droit du travail n'a pas évolué et n'est pas adapté aux startups aujourd'hui. Donc, tous ces trucs de règlement intérieur, de noter ses heures quand tu es aux 35 heures pour être sûr que... de tenir un cahier des horaires pour tous les employés. Oui, il est arrivé à 8h45, il est reparti à 17h45, machin. Alors qu'on veut donner plus de flexibilité possible aux gens et que juste ils organisent leurs propres agendas parce que on n'est pas qui sommes-nous pour leur dire à quelle heure ils doivent se réveiller et à quelle heure ils doivent partir, quoi. Donc tous ces trucs qui sont un peu frustrants. Mais sinon, non, je passe beaucoup de temps avec l'équipe. Mm-hmm. Et ça, j'adore. Et ça fait, c'est ça aussi, quand tu montes ta boîte, c'est que tu bosses avec les gens qui t'inspirent, que t'aimes, que t'admires, que tu respectes au quotidien. Et ça, c'est vraiment un gros plaisir. Et ensuite, c'est toujours se dire comment est-ce qu'on va plus loin, comment est-ce qu'on a plus d'impact. Et la beauté du modèle économique de Too Good To Go, c'est qu'il est totalement aligné avec notre impact écologique, en fait. Donc, je me pose jamais la question de... En fait, je suis hyper mauvaise si tu me demandes mon coût d'acquisition client, mon LTV, mon ROI. Tout ça, c'est pas des KPIs que je regarde. Je regarde juste... Je sais que j'ai un modèle qui tient la route. Mmh. Et du coup, je me dis juste comment est-ce qu'on peut sauver le plus de repas le plus vite possible. Comment est-ce que de 10 000 commerçants, on passe à 150 000 commerçants qu'il peut y avoir en France le plus vite possible. Et du coup, je suis totalement aligné avec ce que je fais, avec ce que j'ai envie de faire, quoi.
Et alors, parlons justement de... Tu parles du modèle économique. Le jeu des startups, c'est effectivement de l'hypercroissance, d'alimenter cette hypercroissance grâce à des fonds. Moi, on me dit que Too Good To Go est rentable. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si tu peux en parler un petit peu. En tout cas, comment tu finances au tout début l'aventure et aujourd'hui, quelles sont les options?
Ouais, alors au tout début, tu finances clairement avec des bouts de ficelle. On a fait une campagne de crowdfunding, on a récolté 12 000 euros. On a toujours développé l'appli en interne, donc avec des associés directement. Donc clairement, au début, moi, je passais énormément de temps à me dire « Ah, ce fournisseur de flyers, il est 10 euros plus cher, donc machin », parce que je payais tout avec mon argent de poche. Je ne me suis pas rémunérée pendant un an et demi. J'habitais chez mes parents. Donc c'est juste tu dépenses le moins possible. Je pense que c'est comme ça que tu finances au début. Et on a eu énormément de chance d'avoir... déjà une marque B2C qui parle à énormément de monde et qui fait que, moi, si tu veux, mon budget marketing pendant un an et demi, alors qu'on a, on a eu plus de 2 millions d'utilisateurs, c'est zéro en fait. C'est juste les médias qui parlent de nous et on n'a même pas une responsable presse. Enfin, tu vois, c'est juste, ça se fait assez tout seul. Donc, je ne sais pas si ça, c'est réplicable à beaucoup de boîtes, mais nous, on a eu énormément de chance là-dessus. Ensuite, au fur et à mesure, quand tu vois qu'en fait... tu vas devenir une vraie boîte et que les choses commencent à se développer et que tu peux aller hyper vite. Là, effectivement, il y a déjà plein d'investisseurs qui t'approchent et ça commence à... Tu te dis, bah, c'est ça qui va me permettre d'offrir les premiers CDI. C'est du fait que je ne vivrai pas au jour le jour, mais que j'aurai une réserve qui me permettra d'investir davantage. Et donc là, on a commencé à parler avec des business angels. Et aujourd'hui, Too Good To Go est financé entièrement. On a levé plus de 16 millions d'euros uniquement auprès de business angels pour le moment.
D'accord. Tu peux en nommer quelques-uns?
Non, c'est des particuliers qui sont même pas français d'ailleurs. Nos business angels, historiquement, ils ont été au Danemark parce que on a trouvé quelqu'un en fait qui s'appelle Preben Damgaard qui nous a suivi vraiment depuis les tout débuts, qui est lui-même un entrepreneur qui a revendu sa boîte à Microsoft il y a longtemps et qui du coup nous a suivi depuis le début. Et c'est quelqu'un de assez génial parce que si tu veux, il est quand même assez là, mais toujours en nous posant des questions, en fait. Il nous a encore jamais rien imposé, mais par contre, il nous apporte ses avis, ses inputs, mais il nous fait totalement confiance pour nous trouver les réponses, en fait. Donc ça, c'est assez du luxe. Et donc, au final, aujourd'hui, on essaie quand même de rester, j'ai envie de dire, le plus loin possible des fonds d'investissement. Parce que, en fait, moi, je vois pas mal deux types de fonds d'investissement. Aujourd'hui, t'as quand même vraiment les fonds impact, mais qui sont pas... aussi pro, qui sont pas forcément plus pro. Ouais, il y en aurait beaucoup qui me tueraient de dire ça, mais je me pose encore la question de qu'est-ce qu'ils vont m'apporter de plus qu'un très bon business angel, qu'un entrepreneur, que tous les gens qui nous conseillent déjà, etc. Je le vois pas trop. Et après, t'as les fonds, les énormes fonds, tu vois, de réputation mondiale qui peuvent t'apporter énormément d'expertise, qui ont des équipes entières qui vont te faire des analyses, qui vont apporter plein de choses que nous, on ferait sûrement pas, qui vont t'apporter des contacts aussi, notamment, tu vois, aux États-Unis, quand on, si on parle d'aller aux États-Unis, est-ce que c'est le bon partenaire, etc., pour ouvrir les portes? Peut-être, mais aujourd'hui, on ne trouve pas ce genre de fonds d'investissement qui ont compris ce que c'est que de monter une boîte à impact et qui vont... nous laisser continuer à faire tout ce qu'on fait en termes de politique, en termes d'éducation, en termes d'inspirer les gens, de les engager, de faire changer les habitudes du quotidien. À quel point est-ce qu'ils vont essayer de faire tout rentrer dans une boîte de rentabilité économique, ce qui honnêtement ferait quitter, je pense que la moitié de la boîte partirait, tu vois. Donc aujourd'hui, on est un peu entre les deux, où bien sûr, on se pose la question, mais clairement, et donc tu parlais de rentabilité, sur un marché comme la France, typiquement, qui est notre plus gros marché aujourd'hui, qui marche le mieux, oui, on est à rentabilité. Après, ça ne veut pas dire grand-chose quand tu rajoutes tous les coûts de développement. Si tu veux, sur l'équipe France uniquement, Oui, le nombre de repas qu'on sauve permet de payer l'intégralité de l'équipe France.
D'accord.
Mais permet pas forcément de payer nos développeurs qu'on partage entre les 13 pays, etc., etc. Donc, si tu veux, en termes tout go groupe n'est pas arrivé à rentabilité aujourd'hui, même si très honnêtement, on voit assez vite le bout du tunnel. Donc, d'ici la fin de l'année, on pourrait tout à fait être rentable en termes de groupe. Ce qui nous pose la question de est-ce qu'on investit assez. mais voilà, en tout cas, on a un modèle économique qui est fort. Et après, la rentabilité, c'est pas forcément ce qu'on cherche aujourd'hui.
Tout de suite, ouais. Tu évoquais les politiques tout à l'heure. C'est vrai que c'est un sujet qui les a concernés. En tout cas, on a vu avec la loi passée en 2016 sur la lutte contre le gaspillage. C'est quoi ta première rencontre avec le monde politique et comment tu arrives à manager cet aspect-là? Est-ce que c'est bien ou pas d'entretenir des relations?
Ouais, bah pour moi, c'est essentiel, en fait. Si on veut arriver à nos fins, entre guillemets, qui sont de vraiment réduire le gaspillage alimentaire, on vit quand même dans un pays où le gouvernement français a mis un objectif de réduction du gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025. Donc clairement, ils sont quand même...
Ambitieux.
Ils sont censés être très intéressés par le sujet, ils sont ambitieux. Et donc nous, la question chez Too Good To Go, c'est comment est-ce qu'on contribue à ça? Comment est-ce qu'en 2025, on se dit « Waouh, on a réussi notre objectif » et Too Good To Go a joué un vrai rôle là-dedans. Donc les politiques, pour moi, que tu veuilles ou tu veuilles pas, c'est une case obligatoire parce que au final, c'est eux qui vont faire changer la réglementation. Et tu peux avancer autant que tu veux par les citoyens, qui est une force incroyable pour faire changer les choses. Mais derrière, il faut qu'il y ait des règles qui soient mises en place. Donc nous, notre premier cheval de bataille, ça a été très vite les dates de péremption. On s'est vite rendu compte que les gens ne savent même pas qu'il y a deux types de dates de péremption aujourd'hui. Entre une date à consommer jusqu'au et une date à consommer de préférence avant le, en fait, personne ne sait que... On pense juste que, ah oui, eux, ils ont voulu mettre ça, les autres, ils ont voulu mettre ça. On se rend même pas compte qu'il y en a un qui est vraiment un facteur de santé, d'hygiène, et l'autre qui est uniquement un facteur de qualité. Ou quand t'as une date à consommer de préférence avant le, bah oui, ton biscuit va pouvoir être un petit peu plus mou. Il va sentir différemment. Peut-être que la couleur va changer un tout petit peu. Donc, c'est uniquement ce qu'on appelle des propriétés organoleptiques. Donc, le goût, l'odeur peuvent changer, mais absolument en aucun cas, tu mets en danger ta santé. Alors que sur une date limite de consommation, sur de la viande, du poisson, là, pour le coup, il y a des risques de bactéries, de développement de bactéries. Et donc, typiquement là-dessus, aujourd'hui, les dates de péremption, elles sont responsables de 10% du gaspillage alimentaire en Europe. Donc, c'est énorme. Et dans des pays anglophones où tu as le use by vs le best before, qui sont quand même plus distincts l'un de l'autre, nous, on a choisi bon en France de traduire le best before par le à consommer de préférence avant le, plutôt que le meilleur avant. Alors ça, va comprendre pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on se dit que d'une part, il faut clarifier la différence. Et en fait, quand tu creuses le sujet des dates de péremption, il y a énormément d'absurdités. Personne ne sait pourquoi est-ce qu'on définit 12 jours de date ou 15 jours de date. C'est les industriels, en fait, c'est les fabricants qui définissent les dates d'eux-mêmes. Il n'y a absolument aucune règle autour de ça.
Pas de contrôle non plus pour voir
si... Et du coup, en fait, effectivement, ça devient tout de suite un truc assez absurde. Et le problème de mettre une date, les dates de péremption, ça devient obligatoire à partir de 1983. Donc, c'est hyper récent, en fait, si tu veux. Avant, il n'y avait pas de date et nos grands-parents, ils savaient faire la différence entre un truc qui est encore bon à être mangé et un truc qui n'est pas bon à être mangé. Tout simplement parce qu'ils avaient un nez au milieu du visage, donc ils sentaient le produit. Ils avaient des yeux, donc ils l'observaient. Ils avaient une bouche, donc ils le goûtaient. Et en fait, typiquement, un yaourt... Pour savoir s'il est encore bon ou pas, déjà tu l'ouvres.
Il faut l'ouvrir,
clairement, s'il sent. Enfin, s'il est plus bon, tu le sens, mais tout de suite. Et si tu veux, si t'es un peu aventurier, bah, tu goûtes le yaourt et là tu vas voir si t'as envie de le manger ou pas, en fait. Sachant que le yaourt, c'est un procédé qui est issu de la fermentation. Donc, c'est pas. Il y a des bactéries dans un yaourt, en fait. Enfin, bref, tout ça qui nous fait dire chez Too Good To Go que. On est quand même hyper déconnecté de notre alimentation aujourd'hui et qu'on a envie de reconnecter les gens avec ce qu'ils mangent au quotidien. Parce que oui, ce que tu manges au quotidien, c'est un impact direct sur ta santé, c'est un impact direct sur l'environnement. Et aujourd'hui, tu vois, il y a encore des gens qui se disent « Ah, donc vous pensez que la santé et l'alimentation, c'est lié ?»
Non.
Oui. Ah si, je te jure qu'il y a des gens qui se posent la question de bah, quand tu as un cancer au bout de quand tu as un cancer dans ta vie, est-ce que ça peut être dû à ce que tu as mis dans ton corps toute ta vie? Oui, oui, c'est très possible. Donc voilà, on fait pas mal de sensibilisation là-dessus. Et du coup, nous, on va chercher les industriels pour les inciter à le faire. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que c'est possible. Et ensuite, de faire jurisprudence et de faire que ça devienne la réglementation. Et donc aujourd'hui, là, on bosse sur un pacte sur les dates de péremption avec des industriels, des fabricants, des distributeurs, des consommateurs et notamment le gouvernement donc en la personne du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et du ministère de la Transition écologique. On a notamment Brune Poirson qui est franchement qui fait bouger énormément de choses et qui nous soutient là-dedans. On a Didier Guillaume qui nous soutient aussi. Et donc ça, encore une fois, pour moi, au bout de 3 ans, pouvoir arriver à ce niveau de discussion. Aujourd'hui, on se fait auditionner par le Sénat pour l'Assemblée nationale sur la loi, sur le projet d'économie circulaire qui va sortir, qui s'applique pour l'instant au gaspillage non alimentaire. Nous, on dit, mais il faut qu'il s'applique aussi au gaspillage alimentaire.
Mais ils te prennent au sérieux quand tu vas les voir, enfin, c'est quand...
En fait, à partir du moment où c'est eux qui nous demandent de venir, oui, clairement, ils nous prennent au sérieux. Après, on verra ce qui se passe dans le projet de loi quand il sort et qu'il arrive devant l'Assemblée nationale, mais...
Tu ne sens pas un décalage encore quand même de culture
Non.
Ça s'est réduit quand même.
Honnêtement, le gouvernement aujourd'hui, ils sont quand même très preneurs d'acteurs comme nous qui allons leur mâcher le travail, entre guillemets. Tu vois, on a sorti un livre blanc sur les dates de péremption avec des recommandations hyper claires. Aujourd'hui, autour de la table, on a des Intermarchés, des Carrefour, des casinos. On a des acteurs qui pèsent. Et donc, si on arrive à mettre tous ces distributeurs d'accord, plus des fabricants comme Danone, je les ai plus tous en tête, mais tu vois, des gros, et que eux font consensus en disant ok, on signe ce pacte, un peu comme on l'a vu pour le pacte plastique. Alors après, il aurait pu aller beaucoup plus loin, mais enfin, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment, on le sait, il faut faire plein de choses en termes de changement climatique. Quand on a un objectif de réduire de 50% le gaspillage alimentaire, bah, si les dates de péremption y contribuent, c'est pareil, il faut y aller. Donc je pense qu'ils sont assez preneurs en fait de gens qui vont les aider à aller dans la bonne direction. Quoi.
Et alors, là où le gâchis ou le gaspillage alimentaire est l'un des plus importants, j'imagine, c'est aux États-Unis. Ça doit être aux États-Unis ? Pas forcément ?
Non, pas forcément. En fait, aux États-Unis, oui, c'est assez énorme, mais en Europe, on est assez champions aussi. Hein.
Mais donc, ma question, c'est quand est-ce que tu vas y aller ?
Ouais.
Si tu vas y aller.
Alors, forcément, en fait, notre ambition chez Too Good To Go, c'est de développer un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on a vraiment des ambitions... global et forcément les États-Unis en termes, pour 2 choses, d'une part parce qu'effectivement c'est un marché qui est énorme, où il y a énormément de gaspillage alimentaire, où il y a énormément de malbouffe, où il y a aussi le problème de faim. La faim aux États-Unis c'est un problème qui est énorme, et donc si un jour on va aux États-Unis on se pose aussi la question de comment est-ce qu'on repense le concept pour vraiment aussi aller plus loin là-dedans dans notre lutte contre la faim. On le fait un peu en Europe mais pas assez pour l'ampleur du problème aux États-Unis. Donc il y a ça qui nous intéresse, le fait d'aller là-bas, mais aussi l'idée de prouver quelque chose, de montrer en symbole que aujourd'hui c'est possible de monter une boîte à impact qui tient la route, qui a un vrai modèle économique. Quand on regarde la valorisation de Too Good To Go, on peut espérer être une licorne dans les prochaines années. Et si on arrive à montrer aux États-Unis que les licornes vertes, ça existe aujourd'hui, et que tu peux monter une boîte en ayant sincèrement et très honnêtement un vrai désir d'impacter positivement l'environnement, et en ayant un modèle économique qui te permet aussi de monter une boîte qui peut être énorme. Pour moi, le symbole que ça montre au monde capitaliste et à tous ces financiers qui sont notamment beaucoup aux États-Unis et à tous ces entrepreneurs qui sont aux États-Unis, c'est incroyable en termes d'aller faire changer les choses et que demain, en fait, il y a beaucoup, beaucoup plus d'entrepreneurs ambitieux qui veulent lancer des boîtes à impact parce qu'on prouverait que ça marche aujourd'hui, en fait.
Et on vient de voir des jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs viennent te voir aujourd'hui pour lancer leur projet ?
Ouais, beaucoup. Malheureusement, beaucoup trop pour le temps que j'ai à allouer aussi. Mais oui, c'est clair. Aujourd'hui, on le voit même dans des incubateurs comme Make Sense. Il y a énormément d'incubateurs qui se développent sur l'impact uniquement et qui sont en train de se développer à toute allure. Beaucoup d'incubateurs qui ne se sont pas montés pour ça aussi rajoutent vraiment des branches entières sur les boîtes à impact. Oui, je pense que ça va au-delà des entrepreneurs. En fait, aujourd'hui, les gens ont envie de redonner du sens à leur quotidien, ont envie de faire des boulots de sens, ont envie de changer les choses. Et du coup, bah, notamment les entrepreneurs, ils se développent de plus en plus là-dedans. Je pense que c'était Frédéric Mazella qui disait « Aujourd'hui, c'est une honte de créer une boîte qui n'a pas un impact positif sur la société. » En fait. Et donc, tu vois, on en est arrivé à ce stade où c'est plus possible de... Enfin, en fait, oui, monter des logiciels SaaS, etc., machin, c'est bien, mais... Est-ce que c'est vraiment là-dedans qu'on a tous envie de mettre notre énergie aujourd'hui, quoi ?
Bon, certains vont, en écoutant ça, vont être ravis. Aujourd'hui, donc, on a commencé la conversation, tu me disais que tu te cherchais, en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, j'imagine que tu t'es trouvé professionnellement, t'as trouvé ta voie et ton ambition. Ton entourage, il pense quoi aujourd'hui ? Quel regard il a ?
Bah, je pense qu'ils sont amusés, en fait.
Ils prennent au sérieux quand même ou pas? Encore?
Ouais, ouais. Alors, ils me prennent au sérieux, mais pas trop. Et en même temps, j'ai pas envie qu'ils me prennent trop au sérieux. Moi, je suis hyper... Je fais hyper attention à pas, tu vois, prendre la grosse tête et me retrouver à genre plus parler à mes vieux potes. Mmh. Et c'est vrai que moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai pas la télé, que je lis pas beaucoup de magazines et de journaux, etc. Et que du coup, pour moi, aujourd'hui, passer à la télé, rencontrer plein de gens importants, entre guillemets, ça fait plus partie d'accomplir la mission que. Et donc, je le fais plus en tant que porteuse du message de Too Good To Go que en tant que Lucie Bache, en fait. Mmh. Et du coup, je détache vachement l'un et l'autre. Et donc, du coup, quand je lis des articles sur moi ou des trucs comme ça, j'en rigole plus qu'autre chose, en fait. Et mon entourage fait pareil. Donc ça, je trouve ça bien. Après, oui, je pense qu'ils sont hyper enthousiastes par ce que je fais. Je sais pas si je peux dire admiratif, mais en tout cas, content pour moi, content que je sois si alignée dans ce que je passe mon temps à faire et dans mes convictions personnelles. Mais c'est vrai que oui, quand on lit des articles... Je sais pas, la dernière fois, il y avait un truc, Lucie Bache virevolte dans l'open space où s'entassent 50 salariés. Et si tu veux, enfin voilà, ça nous fait juste marrer, en fait. Sachant que, si tu veux, c'est pareil, la notion de salarié, t'as toujours la notion de le boss qui gère son équipe, machin. En fait, c'est pas du tout ça. Et moi, je trouve que dans les médias, on met vachement d'accent sur la tête de la boîte, ouais, sur l'entrepreneur, sur. Comme si Too Good To Go, c'était que moi, en fait. Alors que. Clairement pas du tout, et si c'était que moi, on en serait encore au tout début. Et moi, j'aimerais bien qu'on donne beaucoup plus d'importance aux employés des startups, aux employés de ces boîtes qui se développent vachement bien, parce qu'en vrai, c'est eux qui font tout, quoi. Et moi j'ai un rôle défini qui est notamment de coordonner l'équipe, de prendre la parole dans les médias, de donner la vision, l'ambition, mais derrière, tous les experts, ils sont dans l'équipe, en fait. Et moi, je suis un peu expert de rien. Si tu veux, quand je vais au Sénat, à l'Assemblée nationale, j'ai deux personnes qui connaissent leur sujet mille fois mieux que moi, qui vont me briefer de manière hyper pertinente et qui vont me dire les deux points sur lesquels il faut que tu insistes, c'est ça et ça. Et ensuite, moi, je vais aller porter le message.
D'accord.
Mais tu vois, et derrière, c'est si on arrive à faire changer les choses, ce sera sûrement mon nom dans les médias, alors que potentiellement, c'est vraiment eux qui ont potassé tout le truc, etc. Donc... Et je pense que ça, c'est important de le dire, en fait, parce que souvent, du coup, quand t'es entrepreneur et quand t'es à la tête, tu te dis que limite, il faut que tu sois la personne qui connaisse tous les sujets. C'est toi qui gères la partie growth dans ta boîte, c'est toi qui gères la partie affaires publiques, c'est toi qui gères la partie recrutement. Alors qu'en fait, c'est juste impossible. Et on n'est pas des surhommes ou des surfemmes. Et en fait, ce qui fait qu'on est si fort aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui est derrière, en fait.
Et alors, une dernière question autour de l'avenir de Too Good To Go. Est-ce qu'on peut imaginer que Too Good To Go, ça peut s'appliquer à plein de choses, au-delà de l'alimentaire? Yuka a élargi son application aux produits cosmétiques. Est-ce que Too Good To Go peut s'élargir à d'autres produits?
C'est le dilemme du quotidien. Oui, clairement. On a, je te le disais, on a une communauté de 5 millions d'utilisateurs aujourd'hui. On a une plateforme qui fonctionne. Donc, on se pose la question tous les jours. Là, surtout quand on voit tout ce qui se passe sur l'industrie du vêtement, qui est quand même une industrie hyper polluante. Comment est-ce que demain, tu trouves beaucoup plus de produits que des produits alimentaires sur Too Good To Go? Après, encore une fois, on parlait de stratégie tout à l'heure. Ce qui est important, aujourd'hui, on a énormément d'opportunités chez Too Good To Go parce que, oui, on pourrait dupliquer ce qu'on fait sur l'alimentaire à tout un tas d'industries. Ce qu'on fait sur les commerçants de quartier, on pourrait aussi le dupliquer sur toute la chaîne alimentaire, en fait, du gaspillage alimentaire. Il y en a tout au long de la chaîne. Comment est-ce qu'on va aider les usines? Moi, j'ai vu énormément de gaspillage alimentaire chez Nestlé. Comment est-ce que demain, on les aide? Tous les producteurs et tous les fruits et légumes moches qui partent même pas le calibre, comment est-ce qu'on les aide eux? Les consommateurs, il y a 30% du gaspillage alimentaire chez le consommateur, comment on les aide davantage? Donc, il y a vraiment soit on s'étend de manière horizontale, soit on s'étend de manière verticale, d'un sens ou d'un autre. Mais il y a aussi on est vraiment focalisé sur l'expansion géographique aussi aujourd'hui. Donc, la question, c'est plus vers où on va. Et c'est vrai que l'alimentaire, c'est quand même ce qui nous paraît le plus urgent. Est quand même ce qui nous paraît le plus absurde. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui ont faim chaque jour et on jette un tiers de ce qu'on produit sur la planète. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on se demande... voilà, on n'a pas vraiment pris de décision, mais est-ce qu'on a envie d'être hyper gourmand et d'aller tout chercher, ou est-ce qu'on a envie d'être hyper focus et de faire très, très bien notre travail sur un sujet, en fait? Et ça, c'est un peu le choix, le dilemme cornélien, parce que clairement, tu as envie de faire les deux. Mais c'est pas sûr qu'on puisse faire les deux. Et du coup, peut-être que ce serait plus sage de rester focus et de vraiment mettre fin au gaspillage alimentaire.
Bon, histoire à suivre. Merci beaucoup, Lucie.
Merci à toi.
Bonne journée.
Vous venez d'écouter Takeoff, un podcast des Échos, et c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour toute l'info des Échos, retrouvez-nous sur leséchos.fr.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.